Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet qui, à titre personnel, m'évoque plus de mauvais souvenirs que d'inoubliables moments de glisse, j'ai nommé les vacances au ski. Car, oui, je dois vous l'avouer, les virages interminables des routes de montagne, les tout petits appartements studios et les classes de neige légèrement humiliantes pour mes pauvres descentes en chasse-neige, c'était pas trop bon truc. Alors, quand je lis que le ski va disparaître à cause du changement climatique, j'avoue ne pas être très nostalgique. Mais qu'importe mes sentiments personnels, car les enjeux économiques autour du ski sont colossaux. La France est la deuxième destination skiable au monde et de larges territoires dépendent financièrement des sports de glisse. Mais avec le réchauffement du climat, les stations de ski et leur population sont-elles prêtes à sortir de ce modèle ? Pour répondre à cette question, je reçois Jessica Gourdon, journaliste au Monde, spécialiste des questions de tourisme. Et restez avec nous jusqu'à la fin de cet épisode pour retrouver le quatrième numéro de notre podcast Terrain de jeu. Aujourd'hui, on fait le portrait de l'athlète paralympique Charles-Antoine Coicou. Mais tout de suite, les stations de ski sont-elles vouées à disparaître ? Un épisode d'Adélaïde Tenaglia, réalisation Thomas Zeng. Nous sommes dans les années 60 et la France découvre les vacances au ski.
La neige en Provence et aux portes de Provence, cela ne tient plus du paradoxe. Chaque fin de semaine, la route des stations des Alpes du Sud connaît l'exode joyeux de milliers et de milliers de skieurs, plus ou moins expérimentés bien sûr, mais tous attirés et même envoûtés par l'appel des champs de neige.
Dans cette période d'après-guerre, l'État lance de grands plans d'aménagement pour transformer la montagne en attraction touristique. C'est dans ces années-là que vont sortir de terre les stations les plus prisées des amateurs de ski alpin encore aujourd'hui. Avoriaz, Tignes, Les Arcs, Val Thorens, La Plagne, le ski, jusqu'alors réservé à quelques initiés, devient un sport de masse. Et la France, une véritable destination du tourisme hivernal, et pas que. En très haute montagne, comme à Tignes ou aux Deux Alpes, on peut même skier en été.
Ski d'été, une expression qui voici peu de temps encore amusait les Savoyards, et puis au fil des années, après Chamonix, après Val d'Isère, on y a cru à l'Alpe d'Huez et à Tignes. De plus en plus, la saison se prolonge, autrefois 3 mois, puis 6, aujourd'hui 8 ou 9, rendu à 12 mois par an, on ne parlerait plus que de ski éternel.
Mais près de 60 ans plus tard, le ton a bien changé.
De la neige, c'est à contrario ce qui manque cruellement aux stations de ski françaises, une conséquence directe du réchauffement climatique.
Les stations de ski sont contraintes de s'adapter en ce moment. Les températures très douces font que la neige s'est absentée des massifs.
L'hécatombe à la montagne qui continue. De nouvelles stations de ski sont contraintes de fermer, faute de neige, c'est inédit pour la saison. En pleine vacances scolaires, certains villages n'ont plus 1 cm de neige.
Dans les médias et sur les réseaux sociaux tournent en boucle les images de pistes de ski d'à peine 3 mètres de large entourées de verdure. En 2024, la ruée vers l'or blanc est donc loin derrière nous. Pire, nombreux prédisent une disparition prochaine du ski. Alors, jusqu'à quand les Français pourront-ils dévaler les célèbres pistes vertes, bleues, rouges ou noires ? Bonjour Jessica.
Bonjour Jean-Guillaume.
Alors Jessica, on vient de l'entendre, cette année les images de pistes de ski décharnées ont beaucoup tourné sur les médias, sur les réseaux sociaux. Alors est-ce que c'est une année 2024 particulièrement catastrophique en termes de neige ou est-ce que désormais la montagne, l'hiver, ça sera comme ça ?
Alors oui, alors ça a été un très mauvais début de saison parce que là la neige elle est revenue depuis quelques jours. Donc là la fin des vacances de février se passe un peu mieux. Mais pour les vacances des notamment de la zone des Parisiens et de la deuxième zone qui a été en vacances, ça a été une mauvaise année parce qu'il y avait très peu de neige dans les stations de ski de basse et de moyenne altitude. Ces images qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, elles concernent principalement ces stations. Pour les stations qui sont au-dessus de 1600-1700 mètres, ça s'est s'est plutôt bien passé. De toute façon, il y a des canons à neige qui permettaient d'assurer les pistes là où il y avait un peu moins de neige. Mais voilà.
Donc une très mauvaise année, mais la différence peut-être avec les années 60 dont on parlait au début de cet épisode, c'est que ces mauvaises années, elles sont appelées à revenir très souvent maintenant.
Oui, et c'est un effet du changement climatique. En fait, là où les mauvaises années étaient une exception, il y avait par exemple eu un très mauvais hiver en 88, et bien là, maintenant, en fait, ça va devenir de plus en plus souvent. Et des mauvaises années comme celle-ci, ça pourrait devenir un hiver sur trois, un hiver sur deux. L'autre effet du changement climatique, évidemment, c'est que ça raccourcit la saison skiable et ça rend la météo aussi beaucoup plus incertaine. La neige ne va plus être garantie, notamment pendant les vacances de Noël, où c'est le début en fait de la saison. Un chiffre qui est assez parlant, c'est qu'en 50 ans, on a perdu un mois d'enneigement dans les Alpes. Et donc, cette tendance, elle va continuer.
Et le rétrécissement de cette durée d'enneigement, il a un impact sur le modèle économique des stations de ski.
Bien sûr, parce que les stations de ski fonctionnent donc grâce à des remontées mécaniques. Et ces remontées mécaniques se financent grâce aux forfaits de ski. Donc, moins elles vendent de forfaits, moins elles disposent de moyens pour faire tourner leurs équipements. Par ailleurs, moins de neige, ça veut dire aussi plus de canons à neige. Et ça aussi, ce sont des dispositifs très coûteux pour les sociétés de remontée mécanique parce que ce sont des dispositifs qui sont énergivores, qui consomment beaucoup d'électricité, beaucoup d'eau. Et j'ajoute que les canons à neige ne marchent pas dans tous les cas. Ça ne peut pas du tout être la solution miracle pour les stations de basse et moyenne altitude parce qu'on ne peut fabriquer de la neige qu'à un certain niveau de température. Et plus les températures augmentent, plus ça coûte cher à fabriquer.
Alors, Jessica, on va revenir un petit peu au début de l'histoire pour bien comprendre la crise qui touche aujourd'hui les stations de ski. Remontons un peu dans le temps et expliquons avec toi, si tu le veux bien, comment s'est construit le modèle des stations de ski en France. Ça date de quand ?
Eh bien, il faut remonter pour ça au plan neige. Donc, c'était des grands plans d'aménagement lancés par l'État dans les années 60 et 70 qui, en fait, ont créé de toutes pièces des stations de sport d'hiver là où avant, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'on a créé cette économie dans des sites qui vivaient autrefois uniquement de l'agriculture. Et l'enjeu économique, il était énorme à l'époque pour ces régions rurales. Et ça a permis, en fait, de créer un modèle qui a dégagé énormément d'argent en quelques années.
Et alors, qu'est-ce qui le caractérise, ce modèle des stations de ski à la française ? Parce qu'en Suisse ou ailleurs, ça fonctionne différemment.
Alors, le modèle du ski à la française, il se caractérise par des remontées mécaniques qui, contrairement à d'autres pays, sont des services publics. Ils sont assurés soit par les mairies, les collectivités locales, soit par des entreprises privées via des délégations de services publics. Donc ça, c'est une des particularités françaises. Et une autre particularité française, c'est que ces stations, elles ont été construites grâce à des promoteurs immobiliers qui ont développé le modèle de la résidence de tourisme. C'est ce qu'on appelle les résidences de type pierre et vacances dans lesquelles tu as passé tes vacances au ski il y a quelques années. Comment ça marche ? Et bien, donc, les promoteurs construisent des résidences dont les appartements sont achetés par des particuliers. Ces particuliers laissent leur appartement en gestion à Pierre et Vacances, par exemple, et qu'ils peuvent occuper une ou deux semaines par an et le reste du temps qu'ils mettent en location. C'est un modèle très différent de celui qui prévaut, par exemple, en Suisse ou en Autriche, où le développement s'est beaucoup fait sur les hôtels et sur les chalets, alors qu'en France, ça s'est fait essentiellement sur ce modèle des résidences de tourisme.
Ok, donc on voit bien comment cette économie du ski, elle est rentabilisée chaque année par le nombre de vacanciers qui vont au ski. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces stations, elles sont en difficulté ?
Aujourd'hui, le système, il est en panne et cette panne, elle est aggravée par les effets du changement climatique. L'âge d'or du ski en France, ce sont les années 90, les années 2000. Mais depuis 2008-2010, on constate une crise de la pratique du ski. C'est-à-dire qu'avant, le nombre de skieurs augmentait sans cesse et depuis 2008-2010, ça stagne, voire ça baisse d'année en année. C'est une vraie rupture parce que les Français sont moins attirés par le ski. Et par ailleurs, ceux qui viennent dans les stations, ils skient moins. C'est-à-dire qu'avant, ils prenaient systématiquement des forfaits 6 jours. Aujourd'hui, ce sont des forfaits de 2, 3, 4 jours qui sont privilégiés. Et les gens aussi skient moins longtemps, c'est-à-dire qu'ils peuvent skier seulement une demi-journée et pas une journée complète. Donc, il y a un changement comme ça dans la pratique du ski. Et c'est ce qui fait que c'est de plus en plus difficile pour les stations d'amortir leurs investissements dans les remontées mécaniques.
Et comment est-ce qu'on l'explique, cette crise de la pratique ?
Alors, juste pour recadrer, aujourd'hui, selon les enquêtes, c'est entre 8 et 11% des Français qui indiquent qu'ils pratiquent le ski chaque année ou tous les deux ans. Cette crise de la pratique, elle se manifeste beaucoup chez les jeunes. Pourquoi ? Eh bien, essentiellement parce que c'est cher, en fait, les vacances au ski. Il faut compter à peu près entre 800 et 1000 euros la semaine par personne pour un adulte, pour passer une semaine dans une station des Alpes. C'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. Pour une famille, c'est à peu près 3000 euros. Donc, c'est très cher. Aussi, il y a très peu d'offres à destination des jeunes. Il y a, par exemple, il n'y a pas énormément d'auberges de jeunesse. Après, si vous demandez à la Compagnie des Alpes pourquoi les jeunes skient moins, le patron, il m'avait fait cette réponse. Il m'a dit que son principal concurrent aujourd'hui, c'est les vols low cost pour Barcelone ou pour l'Europe de l'Est, parce que voilà, c'est aussi une nouvelle offre touristique à destination des jeunes qui entre en concurrence avec le ski.
Ok, donc moins de skieurs, ça a un impact sur la rentabilisation des remontées mécaniques, tu nous le disais, j'imagine que ça a aussi des conséquences sur l'immobilier, ces grands ensembles dont tu parlais.
Oui, alors ce qui se passe dans ces grands ensembles immobiliers qui ont été construits dans les années 60, 70, 80, c'est qu'aujourd'hui, donc il y a une grande partie qui sont devenues ce qu'on appelle des lits froids. On estime que 50% des appartements dans les stations de ski des Alpes et des Pyrénées sont des lits froids, c'est-à-dire qu'ils sont occupés moins de 4 semaines par an. Donc on a des grands ensembles immobiliers comme ça qui ont des volets clos toute l'année. Ça crée un manque à gagner énorme pour ces stations. Et comment on en est arrivé là ? C'est que, en fait, ces propriétaires de petits appartements qui étaient autrefois gérés par des institutionnels, eh ben, au moment des renouvellements de leur bail, ils sont sortis en fait de ce système parce que, par exemple, Pierre et Vacances pouvaient leur demander de payer des travaux d'isolation thermique ou de rafraîchissement. Et donc, on se retrouve avec des studios ou des petits appartements qui ne sont pas mis sur le marché et qui, par ailleurs, ne correspondent plus aux attentes des vacanciers d'aujourd'hui. Ils sont bien trop petits, ils ne sont pas adaptés aux attentes des vacanciers d'aujourd'hui.
Ok, donc si je résume, à gros traits, on a des stations très dépendantes du nombre de skieurs. Or, les gens en font moins qu'avant du ski et a priori, ils en feront de moins en moins avec la durée d'enneigement qui baisse à la faveur du changement climatique. Alors, comment est-ce que ces stations essayent de compenser ces pertes sur le plan économique et financier ?
Depuis 20 ans, les stations, elles ont énormément construit. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tout un tas de résidences, d'hôtels qui sont sortis de terre et qui ont permis de compenser le fait que de plus en plus de lits disparaissaient et devenaient ce qu'on a appelé des lits froids. Donc, toutes ces nouvelles résidences et hôtels, elles ont contribué à ce qu'on appelle la montée en gamme des stations, parce que tout ce qui sort de terre, c'est plutôt de la catégorie haut de gamme et luxe, parce que c'est aussi ce qu'il y a de plus rentable pour les gestionnaires et les promoteurs. Donc, c'est ce qui explique que dans les grandes stations de montagne de type Tignes, Val d'Isère, Avoriaz, l'offre a énormément monter en gamme. Ça permet d'attirer des skieurs de plus en plus aisés, que les stations vont chercher de plus en plus loin. Aujourd'hui, la clientèle étrangère, ça représente dans les grandes stations 50 à 60% des skieurs. Et les prix de l'immobilier ont d'ailleurs explosé dans ces stations. Dans le cadre d'un article, j'avais par exemple discuté avec le propriétaire d'un hôtel 2 étoiles à Méribel, donc qui avait construit cet hôtel, qui est un gros chalet avec une vingtaine de chambres dans les années 80.
Donc un petit hôtel.
Oui, un petit hôtel 2 étoiles qui tournait très bien, et au moment de sa retraite, il a été approché par un promoteur immobilier qui lui a proposé de racheter son hôtel. En fait, c'est même pas son hôtel, c'est les droits à construire de l'emplacement de son hôtel pour 10 millions d'euros. Donc, il l'a rasé et à la place, il a construit des appartements d'ultra luxe qui sont aujourd'hui en vente pour 30 000 euros du mètre carré. Donc, c'est extrêmement cher. C'est un produit qui attire une clientèle très différente de celle qui allait au ski il y a 50 ans, essentiellement des étrangers qui vont mettre ces appartements en location une grande partie du temps pour des prix accessibles seulement aux plus fortunés.
Et donc, Jessica, si je comprends bien, on se retrouve avec un système à deux vitesses, parce que les stations dont tu parles, elles sont bien sûr en haute montagne, là où il y a de la neige. Et donc, on a d'un côté les stations les plus élevées en altitude qui survivent, qui montent en gamme même, qui construisent et qui s'adressent à une clientèle très fortunée, tandis que les stations de basse altitude qui n'ont plus de neige, elles souffrent d'un désintérêt des Français pour le ski et elles périclitent.
Oui, et c'est dans ces stations de basse et moyenne altitude que le changement climatique est le plus visible, et c'est là-bas qu'il y aura vraisemblablement plus de neige d'ici 20 à 30 ans. De fait, ce système à deux vitesses, il exclut toute une partie de la population du ski, parce que les classes moyennes, qui représentaient une part importante des skieurs, allaient surtout dans ces stations de basse et moyenne altitude. C'est là que beaucoup d'enfants ont appris à skier. C'est aussi là que se déroulaient beaucoup de classes de neige. Les classes de neige, elles sont en déclin depuis 20 ans. Et quand on n'a pas été initié au ski quand on est jeune, c'est très difficile ensuite d'y aller en tant qu'adulte. Donc en fait, pour les stations de ski, c'est aussi potentiellement la perte de toute une partie de leur clientèle qui n'aura pas été initiée plus jeune.
Et donc, pour ces stations-là, c'est tout le modèle économique de la station de ski qu'il faudrait revoir. Est-ce qu'il y a une prise de conscience dans ces territoires de ce changement de paradigme et de sa nécessité ?
Oui, bien sûr, tout le monde en a conscience. Après, ça ne veut pas dire que les stations, elles intègrent cela dans leur plan de développement comme on pourrait l'imaginer. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti le mois dernier qui a épinglé récemment tout ce modèle. En gros, la Cour des comptes dit que les stations, les communes, n'intègrent pas suffisamment le changement climatique dans leurs prévisions d'investissement. Le rapport de la Cour des comptes, il estime que seules quelques stations en France pourront continuer à vivre du ski au-delà de 2050. Ce sont évidemment les stations de haute montagne qu'on évoquait tout à l'heure, mais ce sont seulement une trentaine de stations sur les 200 qui existent en France. Donc pour les autres, la fin du ski, c'est plutôt un horizon de 20 ans, 30 ans, et les maires n'ont pas encore pris la mesure de tout ce que cela signifie pour leur économie.
Pas pris la mesure, ça veut dire qu'ils continuent d'investir dans l'industrie du ski, dans de nouvelles remontées mécaniques, comme si de rien n'était ?
Oui, certaines communes sont d'ailleurs citées par la Cour des comptes, par exemple Val-Louron dans les Hautes-Pyrénées, qui prévoit de doubler son nombre de skieurs malgré son altitude moyenne, ce qui peut paraître déraisonnable. En fait, ce dont la Cour des comptes a peur, c'est que les communes, donc on a vu qu'elles gèrent elles-mêmes les stations de ski, soit directement, soit en délégation de services publics, la Cour des comptes a peur que les communes s'endettent énormément pour financer des remontées mécaniques et qu'ensuite, en fait, elles ne puissent pas rembourser ces prêts.
Jessica, tu nous disais à l'instant que beaucoup de stations sont dans le déni de la nécessité d'un changement de modèle. Pourtant, certains responsables de stations l'ont quand même bien intégré. Et à ce propos, je voudrais qu'on écoute Olivier Erard, directeur du syndicat mixte Métabief Mont-d'Or, une collectivité chargée de la station de ski de moyenne montagne Métabief dans le Jura. Notre journaliste Adélaïde Tenaglia l'a interrogé.
En 2016, on arrivait à un constat où on avait des remontées mécaniques qui nous posaient des questionnements de sécurité. Puis donc, quand avec les technologies de l'époque, on nous disait voilà, vos appareils sont vieux, il faut les remplacer, ça fait 15 millions d'euros. Donc la question, c'était de savoir si on avait au moins 20 ans pour amortir cet investissement-là, sachant pertinemment que il n'y a rien que le ski qui permette de faire tourner des remontées mécaniques. On a répondu non, on n'a pas 20 ans. Donc la première décision, ça a été de renoncer en fait à des investissements neufs et de se dire on ne fait plus que de la maintenance. Voilà, donc ça c'était un acte très fort de fin 2018. Et fin 2018, on avait en même temps inoculé le virus de la fin du ski. Et c'était pas moins de ski, c'était la fin, avant 2040, quoi. Et nous, on disait, potentiellement, il faut se préparer à 2030-35 à avoir déjà un domaine skiable qui ne sera plus du tout celui qu'on propose aujourd'hui et qui sera concentré que sur des parties plus hautes, avec du coup des retombées qui vont être au moins la moitié de ce qu'on vit aujourd'hui. Et à partir de là, c'était panique à bord, parce que qu'est-ce qu'on fait si on ne fait plus de ski? Voilà, donc on n'a pas la solution, mais en même temps, quand on commence à se dire finalement on va pas mettre notre énergie, notre temps et notre argent à aller dans le gouffre, ça libère d'autres opportunités. Donc à communiquer c'est très difficile, parce qu'on nous dit vous faites quoi, Métabief, qu'est-ce qui se voit? Il y a plein de choses qui se voient, un peu diffuses, mais il n'y aura pas le grand soir de la transition. Voilà, il n'y aura pas le ruban. Allez, je coupe le ruban de la transition. Ça va être progressif.
Donc là, on a l'exemple d'une station de ski qui a eu une prise de conscience dès 2018 que le modèle du tout-ski n'était pas éternel, mais qui n'a pas encore trouvé de réponse sur son avenir économique. Alors Jessica, que vont devenir toutes ces stations après le ski? Est-ce que leur économie peut survivre en se tournant vers d'autres activités de loisirs?
Alors, L'une des pistes qui est évoquée par toutes les stations de ski, c'est le développement du tourisme d'été. D'ailleurs, elles ont beaucoup investi pour mettre en place des luches sur rail, des parcours de VTT, diverses animations, des piscines, pour attirer des touristes l'été, remplir leurs hôtels, remplir leurs résidences et dégager des revenus. Le problème, c'est que par rapport à ce que rapporte la saison de ski, c'est ridicule. Et donc, c'est pas là-dessus que va se construire un modèle économique capable de prendre le relais du ski.
Et j'imagine que la solution, ce n'est pas d'ailleurs seulement de remplacer une activité touristique par une autre et que les stations soient vides le reste du temps.
Oui, l'idée, c'est d'avoir davantage dans ces stations de population à l'année, notamment comme ce qui se passe dans les stations en Suisse ou en Autriche, qui sont dans une moins mauvaise posture de ce point de vue-là par rapport aux stations françaises, parce qu'elles ont toujours réussi à garder leur village. Les stations sont en hauteur, mais les villages continuent d'exister et ont toujours attiré une population fixe résidente bien plus importante que celle qui réside dans les stations françaises.
Et quels peuvent être les atouts de toutes ces stations de ski françaises pour attirer une population à l'année ? J'imagine qu'avec le télétravail, ça peut attirer des gens.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, quand j'avais été en reportage aux Arcs, j'avais rencontré un couple qui avait installé un grand espace de coworking pour faire venir des télétravailleurs et à inciter des gens à venir s'installer à l'année. L'une des difficultés, c'est qu'il y a très peu de moyens d'accéder de manière décarbonée à ces stations. Les lignes de train sont encore très insuffisantes et c'est d'ailleurs un point qui est soulevé par de nombreux acteurs de la montagne.
Mais alors, une autre question va se poser pour ces stations qui veulent se reconvertir et faire leur mutation, c'est que faire de ces grands ensembles immobiliers dont tu nous parlais, où il y a tant de lits froids ?
Oui, alors c'est un vrai problème. Il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées pour justement essayer de rénover, d'inciter les propriétaires à engager des travaux, notamment d'isolation thermique ou pour les rendre davantage compatibles avec le marché locatif. C'est très lent. Il y a eu plusieurs initiatives, des foncières qui ont été créées, des dispositifs d'aide, mais qui pour l'instant n'ont pas encore vraiment porté leurs fruits.
Et donc, si je résume, Jessica, pour conclure cet épisode, c'est que pour sortir de cette dépendance au ski, il va falloir beaucoup de moyens. Donc, la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est et l'État dans tout ça ? Il avait donné un gros coup de pouce pour créer ces stations ex nihilo sur le modèle du tout ski. On en parlait au début. Est-ce qu'il va faire de même pour les aider à imaginer leur sortie de ce modèle du tout ski ?
Oui, alors il y a tout un tas de plans qui ont été initiés ces 20 dernières années. Le dernier s'appelle le plan Avenir Montagne, qui a été lancé en 2021 par Jean Castex. Il prévoit 300 millions d'euros pour aider les stations à financer des études, des dispositifs justement pour sortir du tout-ski, imaginer d'autres dispositifs touristiques. Donc, il vient de se mettre en place. On verra s'il porte ses fruits. Mais c'est vrai que la candidature des Alpes aux Jeux Olympiques d'hiver de 2030 envoie plutôt un signal contradictoire de ce côté-là. Il faut rappeler que la France est aujourd'hui la seule candidate, donc elle a de très fortes chances d'être sélectionnée pour organiser ces Jeux Olympiques dans les Alpes. Donc on peut se demander dans quelle mesure c'est pas contradictoire avec la transition qui est nécessaire pour ces stations de ski. Et on aurait pu imaginer que tous ces millions qui vont être investis dans les équipements, dans la rénovation des infrastructures, ils auraient pu être dépensés pour financer la transition vers un nouveau modèle.
Merci Jessica.
Merci Jean-Guillaume.
Pour retrouver tous les articles de Jessica Gourdon, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site lemonde.fr à la rubrique Tourisme. Et tout de suite, comme promis, je vous propose de découvrir le 4e épisode de notre podcast Terrain de jeu, réalisé avec l'association Sport dans la ville avec le soutien de Visa. Némi Ntoya nous y raconte l'année des Jeux Olympiques du point de vue des habitants de son département, la Seine-Saint-Denis, qui accueille de nombreuses épreuves olympiques. Et aujourd'hui, elle nous emmène à la rencontre de Charles-Antoine Kouakou, athlète français atteint d'une déficience mentale et champion paralympique du 400 mètres. Terrain de jeu, à vos marques, prêts ? Partez.
Bonjour, je m'appelle Némi Ntoya, bienvenue dans Terrain de jeu. En cette année olympique, nous nous retrouverons chaque mois dans ce podcast pour vous raconter les Jeux du point de vue des habitants de la Seine-Saint-Denis. Et aujourd'hui, je vais à la rencontre de Charles-Antoine Kouakou, Cet athlète, atteint d'une déficience mentale, a remporté une médaille d'or aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021. Cet été, il portera la flamme olympique en Seine-Saint-Denis et il espère bien conserver son titre.
J'ai commencé à nager à l'athlétisme vers 13 ans, parce que j'ai déjà vu des athlètes au Rio. Par exemple, Van Necker, il a fait ce 400, le record du monde aux Jeux Olympiques au Rio en 2016. Et c'est pour ça, moi, ça m'a touché mon cœur. Moi, ça m'a donné envie de faire de feu que lui, en fait.
Quand il était petit, Charles-Antoine Kouakou ne parlait presque pas, mais il courait tout le temps, partout. Pour l'aider à dépenser ce trop-plein d'énergie, son père l'inscrit à de nombreuses activités physiques, mais aucune ne semble lui convenir. Mais tout change à ses 12 ans quand il intègre l'Institut médico-éducatif La Doucette à Drancy. Il y rencontre Emmanuelle Mougel, enseignante en activité physique adaptée. Elle voit en lui le potentiel d'un futur champion.
Bon, moi, j'avais tous les jeunes en éducation physique et sportive, mais c'est un jeune qui s'est tout de suite démarqué dès qu'il a commencé le sport. Et il suffisait de lui montrer une technique particulière ou de lui montrer un exercice à faire et il captait tout de suite. Et il arrivait à le reproduire et à progresser très, très rapidement.
Emmanuelle Mougel l'oriente alors vers l'athlétisme. C'est là qu'il est repéré par la Fédération française de sport adapté. Puis à 18 ans, il fait la rencontre d'un nouveau coach, Vincent Claricot, ancien entraîneur des équipes de France de relais 4x100 mètres. Il va mettre en place des entraînements adaptés pour Charles-Antoine Kouakou.
Il y a plusieurs ajustements et plusieurs niveaux d'adaptation. Alors, lui montrer les exercices, une consigne à la fois, et installer des repères sur le stade pour lui permettre de pouvoir développer des intentions. S'il doit aller plus vite, eh bien, je mets un plot vert par exemple. Et puis s'il doit ralentir, eh bien je mets soit un peu orange, et s'il doit m'arrêter, un peu rouge. Ce type de choses, par exemple. C'est beaucoup d'engagement et d'investissement pour l'entraîneur, mais en m'occupant de cet athlète-là, dans un groupe en inclusion totale avec des athlètes valides, j'ai pris conscience que ça le faisait énormément progresser et que ça lui permettait aussi de s'épanouir en tant que personne.
Et ça paye. À Tokyo, en 2021, Charles-Antoine Kouakou devient le premier athlète français atteint d'une déficience mentale à remporter une médaille d'or aux Jeux paralympiques.
Un Charles-Antoine, en fait, moi j'en ai eu un dans une carrière, évidemment. Il est vraiment exceptionnel. Quand on est enseignant, quand on a un jeune comme ça qui se débrouille bien, on imagine peut-être un jour les championnats d'Europe. Mais de là à imaginer qu'il fera un jour les plusieurs championnats du monde et qu'il ait un jour une médaille d'or aux Jeux paralympiques, c'est énorme.
Et le rêve ne s'arrête pas à Tokyo. Pour les JO 2024, Charles-Antoine Kouakou a été sélectionné pour porter la flamme olympique en Seine-Saint-Denis. Pour les Jeux paralympiques de Paris, cet été, il va à nouveau courir le 400 mètres, encouragé par ses proches, avec un seul objectif en tête.
C'est de chercher un médaille d'or cette année en Stade de France, en domicile.
Vous pouvez retrouver Terrain de jeu sur votre application de podcast préférée. Et quant à moi, je vous retrouve dès demain pour un nouvel épisode de L'Heure du Monde. Bonne journée.